Chapitre 7. Jean-Noël fut incorporé dans un régiment d'infanterie de Reims, dont le dépôt était en Bretagne. Il apprenait à faire demi-tour lorsqu'il contracta les oreillons, si bien que, quoiqu'il eût devancé l'appel, il subit le sort de sa classe. Avec elle, il arriva dans la zone des armées en juillet. En octobre, il était envoyé au dépôt divisionnaire. 15 jours plus tard, il montait au front. En février 1920, il fut libéré. Il était resté un peu plus de 3 ans sous les drapeaux. Chaque fois qu'il était venu en permission, il avait été cordialement reçu par les Villemurs. Au cours de l'une d'elles, Annie l'avait même peint coiffé de son casque. Car le fait qu'il avait devancé l'appel le jour même où il avait pris pension chez l'ami de Martin Ettlinger, loin d'être considéré comme un coup de tête, lui avait valu la sympathie de tous. Il avait reçu régulièrement des colis. Une correspondance touchante avait été échangée entre Annie et lui. Mais quand il se présenta avenue de Malakoff, vêtu de vêtements civils, l'accueil fut loin d'être semblable à celui qu'on lui avait réservé à chacun de ses séjours à Paris. Une toute autre atmosphère régnait dans cet appartement qu'il avait décrit à tous ses camarades de régiment, ce qui lui avait valu l'estime de certains officiers. Cette tranquillité douloureuse, qui n'avait fait qu'ajouter à la solennité des vastes pièces et dont le souvenir faisait encore aujourd'hui impression sur lui, avait cédé la place à une animation joyeuse. À chaque instant, le téléphone retentissait, un ami venait faire visite. Henri était déjà démobilisé depuis plusieurs mois. Une sœur d'Annie était venue habiter avenue de Malakoff avec son mari. Chaque semaine, M. et Mme Villemur recevaient. Ce fut au milieu de cette renaissance que Jean-Noël revit Annie. Un mois s'écoula comme s'il ne devait plus jamais être question de choses sérieuses. Un jour pourtant, elle lui demanda ce qu'il comptait faire. Comme il paraissait hésitant, son visage se rembrunit. Les banques, les administrations, les entreprises privées avaient besoin de jeunes hommes. Le monde entier ne songeait qu'à reconstruire ce que la guerre avait détruit, et lui n'avait aucun projet. Non, ce n'était pas possible, elle avait mal compris. « Tu sais, mon cher Jean-Noël, » dit Annie en changeant la conversation, comme on le fait quand on tient à rester aimable, malgré une raison de ne pas le rester. « Que nous sommes nombreux à la maison. Es-tu retourné à l'hôtel des grands hommes ? Cet hôtel où nous avons habité, tu t'en souviens, avec ton père ? Il était charmant, n'est-ce pas ? Tu pourrais y louer une chambre en attendant et tu viendrais naturellement prendre la plupart de tes repas ici. » Jusqu'au printemps, Jean-Noël put avoir ainsi l'illusion qu'il faisait partie de la famille Villemur et que ce n'avait été que par commodité qu'on lui avait demandé d'habiter au dehors. Annie ne lui avait pas reparlé de l'avenir. Plus pour excuser Jean-Noël de son indécision que par remords, elle avait regretté d'avoir été si pressée de connaître ses intentions. Elle était décidée à présent à attendre qu'il la renseignât. Mais le temps passait et il demeurait muet sur ses projets. Ce fut justement au moment où Annie se proposait de savoir ce que cachait ce silence qu'un incident se produisit entre elle et son beau-fils. Parmi les camarades de guerre d'Henri, il en était un, Simon Wurzel, dont le père était propriétaire de plusieurs tanneries dans le quartier des Gobelins et qu'Annie ne pouvait supporter. C'était un homme de 36 ans, sanguin, assez flatté de pénétrer chez les Villemur. Quand il avait appris qu'Annie avait été mariée avec un Alsacien, il n'avait rien eu de plus pressé, croyant ainsi s'attirer d'autres titres à l'amitié que celui d'avoir été pendant 3 ans le compagnon de guerre d'Henri, que de lui dire qu'il était également originaire de Mulhouse et que son père se souvenait très bien d'avoir connu une famille Ettlinger. Annie eut beau lui faire comprendre que cette coïncidence ne lui causait aucun plaisir, il n'en prit pas moins avec elle des airs de complicité qui la mettaient hors d'elle. Parfois, il amenait sa sœur Odile, âgée alors de 19 ans, et comme il lui avait recommandé d'être particulièrement aimable avec Madame Ettlinger, cette jeune fille croyait habile d'imiter son frère. Elle était d'une beauté exceptionnelle et le seul défaut qu'on eût pu lui reprocher est d'être un peu petite. Jean-Noël l'avait tout de suite remarqué, d'autant plus qu'elle était une des rares jeunes filles de son âge fréquentant l'avenue de Malakoff. L'idée qu'il pourrait l'épouser ne tarda pas à lui venir à l'esprit. Mademoiselle Wurzel devait appartenir à une excellente famille, à en juger par l'accueil qu'on lui faisait. D'autre part, il n'était pas indifférent à sa beauté. Elle lui jetait parfois de longs regards. Chaque fois qu'elle se trouvait seule avec lui, elle ne pouvait cacher son trouble. Au cours d'une soirée que donnèrent les Wurzel à leur domicile, 123 boulevard du Montparnasse, Jean-Noël lui prit la main, lui avoua qu'il l'aimait. Ils étaient accoudés tous deux au balcon de la chambre du jeune frère d'Odile, Maurice. Il était 11 heures et la nuit était la première de l'année qui fut douce. « Êtes-vous seulement capable d'aimer ?» lui demanda-t-elle. Après bien des hésitations, il se décida à dévoiler son amour à sa belle-mère. Ce fut avec la fierté d'un fils dont on a toujours respecté l'indépendance et qui veut être digne de cette confiance qu'il le fit. Madame Ettlinger n'allait-elle pas se réjouir de ce que l'exemple de son mariage à elle n'avait eu aucune influence mauvaise sur son beau-fils et de ce que, dès à présent, il comprenait que, pour être heureux, il ne faut pas se singulariser? Mais à peine eut-il prononcé le nom d'Odile Wurzel qu'Annie se fâcha. Elle ne voulait pas entendre parler de ces gens. Ne s'imaginait-il pas que le seul fait d'avoir aimé un homme originaire de Mulhouse la rendait semblable à eux? Jean-Noël apprit alors que ce mariage, qui, à ses yeux, devait attirer sur lui la considération des Villemur, lui fermerait justement toutes les portes. La surprise qu'il en ressentit fut si forte qu'il osa demander des précisions à sa belle-mère. Elle lui répondit que les Wurzel n'étaient reçus dans sa famille qu'à cause d'Henri, qui avait fait une partie de la guerre avec Simon. « Je ne me doutais pas de cela, » fit Jean-Noël. Madame Ettlinger le regarda, comme elle le faisait, quand elle n'était pas certaine de l'avoir compris. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda-t-elle. « Je veux dire que si je l'avais su, je ne me serais pas engagée comme je l'ai fait. » Cette fois, Annie perdit son sang-froid. Jean-Noël n'aimait même pas cette jeune fille. Il avait donc songé à faire un de ses mariages, comme elle en avait tant vu autour d'elle et qu'elle abominait. « Si cette demoiselle avait appartenu à une excellente famille, » dit-elle d'un trait, « je me serais opposée également à ce que tu l'épouses. » Elle ajouta que ce n'était pas à une époque où il y avait tant de belles et de grandes choses à faire qu'un homme jeune, fort, intelligent, devait penser à faire un mariage bourgeois. À quoi espérait-il arriver en vivant douillettement auprès d'une femme ayant de l'argent ? Ne se rendait-il pas compte que le monde entier avait les yeux tournés vers l'avenir, que les hommes étaient impatients de se heurter à des difficultés pour avoir la gloire de les surmonter ? Et c'était le moment qu'il choisissait pour faire la cour à la fille d'un tanneur. « As-tu seulement réfléchi à ce que tu voulais devenir ?»« Oui, » répondit Jean-Noël un peu honteux. « Je veux terminer mes études. Je ferai mon droit comme le voulait mon père. » « Et comment vivras-tu pendant ce temps? Tu sais très bien que je n'ai plus d'argent et que je ne veux rien demander à ma famille. » Jean-Noël ne répondit pas. « Écoute-moi, » reprit Annie en se radoucissant. « Je ne te le dis pas pour t'être désagréable, mais il faut que tu travailles. Habitue-toi à cette idée, ensuite le travail te sera indispensable. Tu reviens de la guerre, homme, tu es libre. Si tu le veux, et seulement à cette condition, « tout réussira. Évidemment, il faudra que tu t'imposes des privations, que tu luttes, mais pense à la satisfaction que tu auras plus tard, quand, de la place que tu occuperas par tes seuls mérites, tu contempleras le chemin parcouru. » Par crainte de rencontrer Odile, et aussi pour montrer à sa belle-mère que s'il l'avait remerciée de ses conseils, il n'en concluait pas moins qu'elle n'avait pas pour lui un bien grand sentiment, il ne reparut pas pendant quelques jours avenue de Malakoff. En rentrant, chaque soir, il ne pouvait pourtant pas s'empêcher de demander si on lui avait téléphoné. N'était-ce pas la première fois depuis sa libération que tant de temps s'écoulait sans qu'il vît Annie ? Était-elle inquiète à son sujet ? Un matin, enfin, il eut descendre en hâte au bureau de l'hôtel. C'était Madame Ettlinger qui l'appelait. Sans faire la moindre allusion à l'absence de son beau-fils, elle le pria de passer la voir le plus tôt possible, si toutefois cela ne le dérangeait pas, car bien entendu, s'il avait affaire, elle saurait attendre. En raccrochant, Jean-Noël eut l'impression que sa belle-mère s'imaginait que s'il n'avait pas reparu, c'était que, frappé par ce qu'elle lui avait dit, il s'était immédiatement mis au travail et que déjà, à présent, il n'avait plus une minute à lui. En effet, la première parole d'Annie fut pour lui demander s'il travaillait. « Non !» répondit-il avec mauvaise humeur. « Bien, dans ce cas-là, je vais te proposer quelque chose. » Elle lui dit alors qu'elle tenait à ce qu'il connût un industriel de ses amis. Il y avait quelques jours, elle avait eu un long entretien avec celui-ci, mais avant de lui fixer un rendez-vous, elle voulait s'assurer que son beau-fils était libre. Jean-Noël garda le silence. Le seul mot d'industriel avait fait sur lui fâcheuse impression. Il ne s'expliquait pas cette hâte qu'avait Annie de le voir casé, ni pourquoi elle s'opposait à ce qu'il fît ses études. « Dis-moi ton jour, continua Madame Ettlinger, de manière que je puisse prendre un rendez-vous avec ce monsieur. » Jean-Noël hésita à répondre. « Car tu comprends, ajouta Annie, il faut que je sois certaine que tu viennes. Ce monsieur est très occupé. »« Je suis libre tout le temps, répondit Jean-Noël d'une façon provocante. « Disons, après-demain, veux-tu ? » Alors, sans que rien n'eût laissé prévoir cette sortie, Jean-Noël déclara brusquement qu'il ne voulait entrer ni dans une banque, ni dans l'industrie, ni dans une administration, car il venait de découvrir qu'il avait des dispositions pour la peinture. Madame Ettlinger ne put cacher sa surprise. « Oui, je veux faire de la peinture, » répéta-t-il sur le ton qu'il eut pris pour dire qu'il voulait faire le bien, c'est-à-dire sur un ton qui ne supportait même pas la discussion. « Tu me surprends !» dit enfin Annie. « Je ne vois pas pourquoi. Que trouves-tu de surprenant à cela ?» Elle le regarda comme si, ignorant tout le bien qu'elle lui avait fait, il lui voulait du mal. Elle devinait cependant ce qui se passait dans l'esprit de Jean-Noël. Comment ce garçon, qu'elle avait élevé comme un fils et sur l'avenir duquel elle se faisait tant d'inquiétude, pouvait-il agir si bassement ? Car elle n'était pas dupe. S'il prétendait avoir une vocation artistique, c'était uniquement parce qu'il savait que sa belle-mère, pour être fidèle à ses idées, devait la respecter. N'avait-elle pas répété souvent, alors que Jean-Noël était encore au lycée, qu'elle n'imiterait jamais ses parents qui poussent leurs enfants dans une voie choisie par eux, qu'il fallait au contraire attendre que leur vocation se manifestât pour les encourager ensuite à la suivre et les y aider même. « Mais, demanda-t-elle, as-tu bien réfléchi à ce que tu dis ?»« Certainement. »« Tu sais naturellement que la peinture n'est pas un amusement. Il faut s'y consacrer entièrement. »«
Je le sais. »«
C'est bien. Dans ce cas, je ferai tout ce que je pourrai pour que tu réalises ton vœu. Ce soir même, j'en parlerai à mon père. » Elle se souvint alors de l'hostilité qu'elle avait rencontrée jadis, et des difficultés qu'elle avait dû vaincre pour obtenir l'autorisation de suivre des cours rue de la Grande Chaumière. Qu'allait dire M. Villemur quand il apprendrait que Jean-Noël, lui aussi, se destinait à la peinture ? Ne croirait-il pas que c'était elle qui avait engagé le jeune homme dans cette voie ? « C'est pourtant la première fois, reprit-elle, que tu me parles de cette intention. Ce n'est tout de même pas du jour au lendemain qu'on se découvre une vocation artistique. » Ce qui me surprend, c'est qu'elle te soit venue si subitement. Bien qu'elle eût la certitude que son beau-fils lui jouait une comédie ridicule et méchante, Madame Ettlinger s'efforçait de le traiter comme s'il était sincère. Il y a des années que je rêve de faire de la peinture, répliqua Jean-Noël. Si je ne t'en ai pas parlé plus tôt, c'est que je craignais que tu ne te moques de moi et que tu ne me prennes pas au sérieux. Le soir même, comme elle l'avait promis, Annie raconta à son père la conversation qu'elle avait eue avec son beau-fils, non sans embarras, car un tel sujet ramenait l'attention des siens sur son passé. M. Villemur n'allait-il pas penser qu'elle n'avait pas changé ? N'allait-il pas profiter de cette occasion pour lui reprocher encore son mariage ? Il n'en fit rien. Je ne comprends pas, dit-il, pourquoi tu me consultes. Si Jean-Noël veut faire de la peinture, qu'il en fasse. M. Villemur ne pouvait mieux dire qu'il se désintéressait complètement du jeune Ettlinger. Quand Annie revit celui-ci, elle lui fit part de l'indifférence de son père. « Mais, ajouta-t-elle, cela n'a pas d'importance. Je te louerai un atelier. Dans peu de temps, tu pourras, en même temps que tu travailleras pour toi, te rendre utile soit à un décorateur, soit à un architecte. » « C'est que, répondit Jean-Noël, j'ai changé d'avis. Je crois, après réflexion, qu'il vaut mieux que je fasse autre chose que de la peinture. » En disant ces mots, il regarda sournoisement Annie. Lorsqu'il lui avait parlé de sa prétendue vocation, il avait cru qu'elle s'y opposerait. Il se fut alors servi de ce refus pour lui reprocher de le traiter comme elle s'était plainte qu'on l'avait traité. Mais elle avait accepté qu'il se consacrât à la peinture. Elle avait même encouru pour lui les sarcasmes de son père. Il s'était donc trouvé dans la nécessité de s'adonner à un art dont il se moquait ou d'avouer qu'il avait manqué. Quoi qu'il fît, sa belle-mère aurait donc toujours le dessus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda Madame Ettlinger. Il lui répéta qu'il ne voulait plus faire de la peinture. Cette entrevue avait lieu dans le cabinet de travail de M. Villemur. Annie se leva et, sans prononcer un mot, sortit. Croyant qu'elle allait revenir, Jean-Noël attendit quelques minutes. Puis il fut pris de crainte. N'avait-il pas dépassé la mesure ? Il ouvrit la porte. Le vestibule était désert. Dans le salon, il aperçut deux vieilles dames assises. La pensée de se rendre dans la chambre d'Annie traversa son esprit. Il n'en fit rien. Quelques instants après, il se retrouvait avenue de Malakoff, dégoûté d'avoir menti pour rien et décidé de ne reparaître que lorsqu'Annie l'en prierait.